Europe 1, il est 7h.
C'est un incendie assez grand. Je pense que l'intégralité quasiment de l'usine flambe, donc c'est visible à des kilomètres.
Un incendie en ce moment même dans une usine classée Seveso à Rouen. 130 pompiers mobilisés, un périmètre de sécurité est mis en place.
Emmanuel Macron veut convaincre sur les retraites. Il sera dans l'Aveyron tout à l'heure pour un grand débat dans la salle des fêtes de Rodez.
C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant.
Des barbares, le mot de trop de Jean-Luc Mélenchon pour les syndicats de police. Alliance appelle un rassemblement ce matin devant le siège de la France Insoumise. Nous serons en ligne avec son secrétaire général.
Donald Trump dément toute pression sur l'Ukraine. Il est menacé par une procédure de destitution, mais il fait mine de la prendre à la légère.
Impeachment for that? It's a joke.
La destitution pour ça, c'est une blague. Et puis le foot, 44 ans que Reims n'avait pas gagné à Paris. Victoire hier soir 2-0 au Parc des Princes contre le PSG.
Vous êtes sur Europe 1, bon réveil à toutes et à tous. Il est presque 7h01.
Europe 1.
Et d'abord donc cet important incendie en ce moment dans une usine classée Seveso à Rouen. Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit dans cette usine qui fabrique des additifs pour lubrifiants. Sébastien est à quelques centaines de mètres de l'incendie.
Je vois un grand panache de fumée noire qui recouvre une partie du ciel et c'est un incendie assez grand. Je pense que l'intégralité quasiment de l'usine flambe, donc c'est visible à des kilomètres. Alors il y a des explosions régulières. On est à proximité du pont Flaubert qui enjambe la Seine. Je suis monté sur le pont, je me suis approché et sur certaines explosions, il y a des débris qui arrivaient jusqu'au pont. Donc je pense qu'il y a plusieurs centaines de mètres. Il y a un périmètre de confinement de 500 mètres autour de l'incendie. Il y a au minimum 130 pompiers sur place. Vu la taille de l'incendie, je ne suis pas sûr qu'on puisse. Et puis, ce sont des produits chimiques, donc avec des risques particuliers et puis des explosions. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle exactement. Un hélicoptère a survolé la zone à 6 heures du matin. Je suppose pour voir un peu mieux ce qui était possible de faire.
Voilà un témoignage à l'instant recueilli par Julien Pierce. Selon la préfecture, pas de victimes et toutes les écoles de la métropole de Rouen vont rester fermées aujourd'hui.
Vous êtes riverain comme Sébastien qu'on vient d'entendre. N'hésitez pas en région rouennaise, n'hésitez surtout pas. Le 3921, le hashtag Europe 1 pour nous décrire ce qui se passe sur place. C'est donc le retour du grand débat aujourd'hui et c'est à Rodez que ça se passe, en Aveyron. Emmanuel Macron lance ainsi la consultation citoyenne sur la future réforme des retraites qui doit durer jusqu'à la fin de l'année.
Oui, accompagné de Jean-Paul Delevoye, au commissaire aux retraites, le président va répondre aux questions de 500 personnes venues de toute l'Occitanie. Adrien Beck, il reprend la stratégie déjà utilisée lors de la crise des Gilets jaunes.
Cette fois, il ne s'agit pas d'éteindre l'incendie, mais de l'éviter. Emmanuel Macron le sait, la réforme des retraites est explosive. Et surtout, à ce stade, s'inquiète un ministre, les Français n'y comprennent rien. On doit sortir de la discussion de spécialistes, dit-il, sinon ça va mal se passer. Alors le chef de l'État redescend dans l'arène face à 500 Français réunis dans la salle des fêtes de Rodez. Une soirée d'échange qui devra lui permettre de lever les fantasmes, les inquiétudes, de reposer le cadre, dit un de ses proches. Avec ce débat direct, Emmanuel Macron compte aussi toucher un large auditoire. Dans ce type d'événement, il a autant de téléspectateurs qu'un match de foot, exagère un peu un cadre de la majorité. Mais Emmanuel Macron ne multipliera pas ses grands débats. Jean-Paul Delevoye, nommé ministre pour cela, et le chef du gouvernement, Édouard Philippe, participeront eux aussi à certaines des 150 réunions publiques prévues ces prochains mois.
Adrien Beck et les opposants à la réforme des retraites, Gilets jaunes, CGT, Parti communiste ou encore France insoumise appellent à manifester à Rodez à 17h30.
Grosse tension entre Jean-Luc Mélenchon et les syndicats de police. Tout est parti de cette petite phrase prononcée mardi par le leader de la France insoumise.
C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant.
Soyez prudents, ne rajoutez pas, c'est pas la peine de revenir avec un œil en moins.
Mais eux, ils agressent tout le monde.
Barbare, le mot qui ne passe pas. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, demande des excuses. Les syndicats de policiers montent aussi au créneau, dénonçant une insulte inacceptable. Et Alliance appelle un rassemblement tout à l'heure à 11h devant le siège parisien de la France Insoumise.
Bonjour Fabien Van Hemelrijk.
Oui, bonjour.
Vous êtes le secrétaire général Alliance. Manifester devant le siège d'un parti politique, ce n'est pas anodin.
Ah non, c'est rare que ça arrive d'ailleurs. Je crois que c'est une des premières fois, en tout cas pour nous. Manifester devant un parti politique, c'est tout simplement parce que c'est pour exprimer notre ras-le-bol, notre mécontentement. On en a marre des personnes comme M. Mélenchon qui se permettent de donner des leçons à longueur de temps et surtout d'injurier l'institution et les collègues de manière générale.
Vous avez demandé au ministre de l'Intérieur de porter plainte. Vous avez des nouvelles de Christophe Castaner ?
Pour tout vous dire, je laisse la décision au ministre. En tout cas, il a écouté ce qu'on avait à dire. Maintenant, il sait qu'on sera en désaccord avec lui s'il ne le fait pas. Il n'y a pas d'autre solution. Après, M. Mélenchon devra rendre compte auprès de la justice. Il y aura deux solutions. Soit il sera pénalement irresponsable, et dans ces cas-là, il devra aller se faire soigner. Soit il sera déclaré coupable et il sera sanctionné.
Merci d'avoir été l'invité du journal de 7h sur Europe 1. Fabien Van Emmerik, vous êtes secrétaire général d'Alliance. Et à l'annonce de votre manifestation, Jean-Luc Mélenchon a demandé à des gilets jaunes de venir le soutenir ce matin, mais aussi à la gendarmerie d'assurer la protection du siège de son parti.
Europe 1, il est 7h05. La suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
De nouveaux déboires pour EDF. L'électricien a remporté le contrat du siècle pour construire deux EPR au Royaume-Uni. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Mes questions ce matin, ce contrat est-il en train de virer au cauchemar? La facture s'envole dangereusement.
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'électricien national. Après le report de 3 ans de l'EPR de Flamanville, on en est à 10 ans de retard quand même, après la découverte de malfaçons récemment dans 6 réacteurs nucléaires, c'est donc ce chantier en Angleterre, à Hinkley Point, qui prend du retard et surtout dont le coût s'envole. Le contrat avait été signé pour 16 milliards de livres. La facture a grimpé à 18, puis à 20, maintenant à 22 milliards de livres. Ça fait 25 milliards d'euros. Et comme EDF a négocié la vente de l'électricité qui y sera produite à un prix fixe, eh bien à chaque fois que la facture augmente, la rentabilité du projet en prend un coup.
Au point de ne plus être rentable pour EDF?
Alors non, on en est encore loin, mais on est loin aussi de la fin du chantier. La mise en service est prévue en 2025. Il peut se passer beaucoup de choses. Et pendant ce temps, le nucléaire perd petit à petit en compétitivité par rapport aux renouvelables. Le nucléaire aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité mondiale contre 6% pour le photovoltaïque ou l'éolien. Mais ces derniers sont devenus moins chers. C'est donc l'avenir à plus long terme de la filière qui est potentiellement menacée. Et pourtant, les deux réacteurs EPR en construction en Angleterre devait servir de vitrine au savoir-faire français et permettre à EDF de remporter un autre gros contrat outre-Manche, une vitrine aujourd'hui abîmée.
Merci Nicolas Barré, directeur des Échos.
C'était l'éclairage Échos avec la Caisse d'épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1, il est 7h03. 7h07, pardon.
Non à la mafia, une vingtaine de personnalités corses lancent cet appel pour dénoncer l'emprise mafieuse sur l'île. Elle demande à tous les responsables politiques insulaires de s'engager. On va y revenir dans le journal de 8h.
À Tourcoing, dans le Nord, les futures mamans sont très inquiètes. Il n'y a plus de médecins à la maternité de l'hôpital. Les deux derniers gynécos du service sont en arrêt maladie.
Oui, et des femmes enceintes qui ont seulement été prévenues hier qu'elles devaient chercher un autre établissement pour leur accouchement. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot.
À une semaine du terme, donc du stress. Et c'était un accouchement sans péridurale suivi par mes sages-femmes. Donc là, tout est annulé et on cherche un hôpital, on verra bien.
Et Sabrina semble un peu perdue en sortant de l'hôpital de Tourcoing. Pour son premier accouchement prévu dans une semaine, elle doit chercher en urgence une autre maternité. Alors avec Steve, son mari, elle va tenter de trouver une place au plus près de chez elle.
On avait le choix entre Armentières, Saint-Vincent, Roubaix et Lille. Donc bon, sachant que nous on est d'ici, on va prendre Roubaix, c'est le plus près.
C'est perturbant quand même.
Oui, très perturbant.
Ils auraient dû garder un médecin exprès pour les femmes qui accouchent bientôt. Et les autres les envoyer ailleurs, mais c'est vraiment n'importe quoi. Hein.
Ça met du stress en plus pour les femmes qui n'en ont pas besoin.
Au fil du temps, la maternité est passée de 6 à 3 médecins pour assurer 1700 accouchements par an. Deux d'entre eux en arrêt maladie et c'est tout un service qui est paralysé. Un nouveau signe du manque de moyens pour l'hôpital public, selon Christophe Marlon, délégué CGT.
Des réponses doivent être trouvées pour ce service très vite, qui est absolument indispensable à la population. On attend des mesures d'urgence de la part des autorités pour pouvoir faire fonctionner. Il faut qu'ils se donnent les moyens.
Contactée, la direction de l'hôpital se refuse à tout commentaire, rassurant simplement tout faire pour que les accouchements reprennent dans les plus brefs délai. À Tourcoing, Lionel Gougelot, Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, l'enquête Europe 1, l'enquête du journal de 7h sur le retour des 90 km/h sur certaines départementales. Ça s'annonce très compliqué. C'est ce que nous dira Aurélie Herbemont dans la suite du journal. À tout de suite.
Il est 7h10 sur Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
80 ou 90 km/h, telle est la question. D'ici quelques semaines, la loi mobilité sera définitivement adoptée. C'est elle qui permettra un assouplissement des 80 km/h.
Oui, sur le papier, quasiment tous les présidents de département réclamaient cet assouplissement. Pour autant, est-ce qu'ils vont tous revenir à 90? Aurélie Herbemont, vous avez mené l'enquête. Ça ne sera pas le cas.
Alors, il y a 95 départements métropolitains, vous le savez. Selon nos estimations, la moitié ne repassera pas intégralement à 90. Une dizaine a même renoncé totalement, car les présidents le confient. C'est compliqué. D'abord, il faudra l'avis de la commission départementale de sécurité qui dépend de la préfecture et qui se basera sur les rapports d'accidentologie. Ajoutez à ça, les préconisations de la sécurité routière, les arrêts de cars ou les passages de tracteurs ne sont pas compatible avec une dérogation aux 80 km/h. Autant dire qu'en zone rurale, les contre-indications seront fréquentes. Une trentaine de départements tient quand même à revenir à 90 km/h sur un maximum de routes, comme Claude Riboulet, président de l'Allier. Il est remonté contre le gouvernement.
Il ne faut pas se mentir. Qu'on fasse tout pour nous empêcher de revenir aux 90 et qu'on essaie de nous en dissuader, ça c'est juste une réalité. Il a fallu tordre le bras au gouvernement pour accepter de nous autoriser à déroger, mais que ça ne sera évidemment pas pour nous faciliter la vie.
Autre difficulté, le coût. La règle reste 80 km/h. Il faut donc des panneaux 90 partout. Le président de l'Ain a fait ses comptes. Pour ses 4500 km de route, ça lui coûterait 1 400 000 euros. Impossible, évidemment. Le 90, ce sera juste sur quelques tronçons.
Est-ce qu'ils seront nombreux à faire comme lui ?
Ils sont une cinquantaine à envisager un retour au 90 à la marge. Pour le président du Loir-et-Cher, par exemple, ce sera 15% du réseau, les axes les plus sécurisés. En Charente-Maritime, idem, une grande partie restera à 80. Les tronçons les plus dangereux passeront même à 70.
Et vous le disiez, Aurélie, une dizaine renonce carrément au 90.
Il faut dire que le gouvernement leur a bien fait comprendre qu'en cas d'accident, ils seront les seuls responsables. Certains redoutent d'être attaqués en justice par des familles. Dans le Morbihan, François Goulard a tranché, aucune route ne repassera à 90.
Je vois assez mal remettre une section à 90 km/h et puis avoir un accident mortel dans les semaines qui suivent. Je pense que ceux qui feront cela seront quand même assez gênés. Plus la vitesse est élevée, plus les accidents sont graves. Et en tout cas, c'est une responsabilité que je ne prendrai pas à titre personnel.
Et c'est exactement ce genre de réaction que le gouvernement attendait avec son assouplissement très encadré.
Merci Aurélie Herbemont, c'était l'enquête du 7h.
Europe 1, il est 7h13.
Donald Trump dément avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. Et cela malgré la publication hier de la conversation téléphonique entre les deux présidents.
Oui, conversation qui le met plus que jamais en difficulté. On le rappelle, il est menacé par une procédure de destitution lancée par les démocrates. À New York, Xavier Yvon.
C'est encore plus accablant que je ne le pensais. Le cri du cœur d'Adam Schiff à la lecture des 5 pages de conversation téléphonique, ce cador démocrate à la Chambre des représentants, y voit la preuve, noir sur blanc, que Donald Trump mérite d'être destitué. C'est un chantage mafieux classique, dit-il. On y voit un président ukrainien qui a terriblement besoin de l'aide américaine face à la Russie et un président américain qui répond en demandant une faveur. On a fait tellement pour vous, qu'avez-vous fait pour nous ? C'est comme ça que parlent les boss de la mafia. Hasard du calendrier, le président Zelensky avait justement rendez-vous avec Donald Trump hier. L'Ukrainien et l'Américain ont tenté de sauver les apparences.
Good phone call, normal.
That call was perfect.
Cette conversation était parfaitement normale, ont-ils dit en chœur.
Nobody pushed me. Yes.
In other words, no pressure.
Il n'y a eu aucune pression. C'est la ligne de défense que Donald Trump a martelé toute la journée. Circuler, il n'y a rien à voir.
Impeachment for that? It's a joke.
Un impeachment pour ça, c'est une blague. Les démocrates, eux, ne rigolent pas. Une majorité des élus de la Chambre se dit désormais prêt à voter la mise en accusation du président des États-Unis. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
À Londres, les débats du Parlement ont repris hier. Boris Johnson, Premier ministre, met l'opposition au défi de voter une motion de défiance.
Football à présent avec Reims qui rit et Paris qui pleure. C'est un PSG privé de deux de ses stars, Mbappé et Cavani, qui s'est incliné hier soir lors de la 7e journée de Ligue 1.
Une défaite à domicile 2-0 face à Reims. Le président du club, Jean-Pierre Caillot, avait toutes les raisons de sortir le champagne.
Moi, je suis très fier de ce qu'a fait le stade de Reims ce soir. On est venu jouer au foot. Je sais qu'on n'a peut-être pas les qualités des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais on a joué avec notre cœur et même dans les derniers moments où ça chauffait fort, et ben on a remis le pied sur le ballon. On a fait des bons enchaînements et encore une fois, je pense que le stade de Reims ce soir a vraiment donné une bonne image du football.
Le président du club de Reims au micro Europe 1 de Julien Froment, les Rémois désormais 8e du classement.
Merci beaucoup, c'était le journal avec Hélène Zélani. Prochain journal à 7h30 tout à l'heure avec Carole Ferry.